France Info.
La chanteuse Imani avec nous, qui a composé et qui vient de sortir son nouvel album, et vous serez en concert dans toute la France. L'album s'appelle The Wrong Kind of War. Pardon pour l'accent.
C'est pas mal. Honnêtement, vous êtes un des meilleurs.
Il faut qu'on parle de votre histoire et de votre carrière. Vous êtes fille de militaire. Votre papa était pompier dans l'armée de l'air. En quoi cela vous a constitué?
Ah bah ça, c'est une bonne question. Ça vous forge un sacré caractère.
Et vous a mis à l'école militaire dès l'âge de 10 ans?
Oui, exactement.
C'était quelle ambiance, quel genre? C'est quoi une école militaire?
Une école militaire de jeunes filles. Alors ça s'appelait la Maison des Ailes. Ça a fermé depuis. Mais c'était une école qui était à la base construite, je sais plus si c'était à la fin de la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, mais c'était pour les pupilles de l'air. Et donc il y a plein de choses de cette époque qui étaient restées. Donc c'était à la fois le salut du drapeau, marcher au pas, chanter la Marseillaise, mais aussi l'art de passer la serpillière, faire la tarte aux pommes, il y avait faire les lieux carrés, il fallait que les... Mais il y avait plein de choses, c'était l'armée pour les enfants, quoi.
Je veux pas savoir comment est votre lit, mais comment est votre tarte aux pommes?
Elle est très bonne.
Alors, votre papa est musulman?
Oui, tout
vous,
à fait.
Vous aussi?
Oui.
Et alors, il vous a envoyé dans une école dans laquelle il y avait des cours de catéchisme.
Exactement.
Pourquoi cette ouverture?
Mon père, il disait, on est dans un pays dont la base est chrétienne, si tu veux comprendre comment il fonctionne, eh ben, tu vas aller au cours de catéchisme. Et donc, j'allais chanter « Jésus revient », tout ça avec les autres. Je chantais même pendant les communions et confirmations des copines. Pour lui, c'était une forme d'ouverture d'esprit et d'éducation.
Et pour vous?
Pour moi, c'était chiant. Mais effectivement, il avait raison. Parce que pour connaître les autres, de toute façon, il faut connaître un peu d'où ils viennent, qui ils sont, qu'est-ce que ça veut dire. Il avait raison.
Il y a aussi le sport.
Ouais.
Vous avez longtemps fait de l'athlétisme. Mm-hmm. Pour le Figaro Magazine, vous faisiez du saut en longueur. Pour l'Express, c'était du saut en hauteur.
L'Express a raison. Je faisais du saut en hauteur.
Pour le JDD, vous êtes une ex-athlète de haut niveau en équipe de France de saut en hauteur.
Il y a quelques petites modifications, mais c'est pas loin.
Ouais.
Effectivement, j'ai été sauteuse en hauteur. Je me suis entraînée à l'INSEP. J'avais un petit niveau national.
Vous passiez votre taille?
Oui, oui.
C'est combien votre taille?
78. Et donc voilà, moi, mais j'étais pas dans l'équipe de France. Non, mais je m'entraînais avec le coach.
Et vous regardez l'athlétisme à la télé encore?
Quand j'ai le temps, ouais, je le fais. J'essaie de regarder au moins pendant les JO et les championnats du monde. Ouais.
Puis vous êtes devenu mannequin. Mmh. La légende raconte qu'un homme vous a repéré dans le métro pour faire des photos, c'est vrai?
C'est une femme qui m'a repéré, mais c'est à peu près ça. Ouais.
Bon, il y a un truc dingue, c'est vous partez à New York, vous êtes mannequin,
ouais.
Mais ça se passe moins bien que prévu, car arrive, je ne savais pas du tout que ça avait une incidence, le 11 septembre.
Ouais.
En quoi ça a changé le business et la vie des mannequins et de la mode?
Le 11 septembre, du coup, ça a été une crise financière là-bas. Et du coup, tous les clients, les potentiels clients se sont mis à faire des coupes. Donc du coup, prenez juste un certain nombre de filles, les filles très connues. Et d'un coup, on travaille plus. Et il faut quand même payer le loyer. Et moi, j'habitais à New York et j'étais partie de là. Mes parents, ils n'étaient pas hyper chauds pour que je m'en aille. C'est pas de revenir les poches vides, quoi.
Tout à fait autre chose. Vous êtes mobilisé avec notamment Julie Gayet contre l'endométriose. J'avoue, je ne connaissais pas du tout. Une maladie gynécologique, qu'est-ce que c'est?
C'est une maladie qui, en gros, va vous donner des règles douloureuses. Tellement douloureuses que vous ne pouvez pas sortir du lit. Il y a des femmes qui s'évanouissent, il y a des femmes qui vomissent. C'est la première cause d'infertilité en France. C'est des douleurs pendant les rapports sexuels. Enfin, tout.
Vous dites que vous avez une amie qui s'est retrouvée en chaise roulante?
Elle est tellement atteinte à ce que j'ai oublié d'expliquer dans la maladie, c'est que vous avez les cellules du mur utérin qui se retrouvent ailleurs que dans l'utérus. Sauf qu'elles réagissent de la même manière. Ça veut dire que pendant les règles, elles gonflent, elles se détériorent et elles saignent. Vous saignez donc des poumons, de la vessie, de l'œil à chaque fois que vous avez vos règles. C'est abominable.
J'ai découvert également que ça s'opérait et que vous-même avez été opéré.
Oui, alors en fait, on peut soigner les symptômes et pas la maladie. Et à l'opération, qu'est-ce qu'on fait? Au laser, on vous enlève tout. Toutes les cellules endométriotiques qui ne sont pas censées être là. Mais le problème, c'est que ça peut revenir.
Vous pensiez que vous ne pourriez jamais avoir d'enfant et bim.
Et j'ai eu un petit garçon. C'est une touche d'espoir et à la fois, je ne tiens pas à être cet espoir. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a à peu près entre 60 et 70% des femmes qui ont une endométriose qui n'auront jamais d'enfants. C'est une statistique. Donc moi, c'est une touche d'espoir, mais je veux pas être donner des faux espoirs. Il faut, pour moi, essayer de trouver et se construire et accepter la situation telle que la vie vous l'apporte.
Imani, avec nous sur France Info, on se retrouve tout à l'heure.